Bonjour Pierre Servan.
Bonjour.
Pierre Servan, spécialiste des questions de défense et auteur de 50 nuances de guerre. Alors hier, Vladimir Poutine a mis en scène une réunion avec l'armée, ça a été diffusé à la télévision, et il a brandi la menace nucléaire, la Russie, première puissance nucléaire mondiale. Pierre Servan, comment faut-il prendre ou recevoir la menace? Faut-il en avoir peur ou est-ce un coup de bluff?
Alors sans doute un peu des deux. Dans le passé, Vladimir Poutine a montré qu'il était extrêmement désinhibé par rapport à la menace de l'arme nucléaire. Après l'annexion de la Crimée, il avait très clairement dit que si on s'était opposé à lui dans cette invasion-annexion de la Crimée, il était prêt à recourir à l'arme nucléaire. Il s'était même débrouillé avant l'annexion de la Crimée pour faire fuiter en direction des services de renseignement otaniens le fait qu'il était déterminé à utiliser l'arme nucléaire. Donc ça reste préoccupant. Maintenant, pour la période, je dirais, actuelle, on peut estimer qu'il y a trois buts visés par Vladimir Poutine. D'abord, un, les opérations militaires ne se déroulent pas parfaitement de son point de vue. Alors, nous sommes au début de la guerre, c'est toujours, on sait quand une guerre commence, on ne sait pas quand elle se termine, mais disons que ça patine sur plusieurs points, donc ça fait partie de la menace, de la pression psychologique, de l'arme de la terreur. Deuxième raison, il y a une amorce de début, de commencement de rencontres diplomatiques ou d'échanges entre les Ukrainiens et les Russes, et en faisant ça, Poutine place une sorte d'épée de Damoclès nucléaire au-dessus de la tête de la délégation, au-dessus de la tête des Ukrainiens. Et puis il y a peut-être une troisième raison, c'est que, comme vous l'avez vu, on vit une période historique dramatique, tragique, mais avec un événement majeur dans l'événement, qui est l'évolution radicale de la position allemande par rapport à l'envoi d'armement important à l'Ukraine. Et il est possible que cette menace du nucléaire soit faite pour essayer d'intimider les Allemands qui sont en train de bouger. Vous savez qu'en Allemagne, historiquement, il y a un fort parti anti-armes nucléaires. Et donc, le fait de brandir l'arme nucléaire, ça peut réactiver la peur du nucléaire. Et puis, c'est peut-être aussi à destination de la Finlande et de la Suède qui est en train psychologiquement de faire mouvement vers l'idée d'entrer dans l'OTAN. Voilà, donc c'est une stratégie, une gesticulation pour l'instant, mais avec Poutine, il faut se méfier.
Alors, on va revenir sur la décision allemande et la décision européenne, notamment sur les livraisons d'armes, Pierre Servan. Moi, je voudrais quand même qu'on comprenne la Russie, première puissance mondiale, c'est quoi aujourd'hui l'état des forces en présence en matière nucléaire ?
Alors, c'est toujours des comptabilités, c'est pour ça que c'est pas complètement juste de dire première puissance nucléaire, parce que effectivement, elle est en termes de comptabilité de tête nucléaire. Mais il faut savoir que quand on compte le parc nucléaire russe, donc en gros, à la louche, on a un peu plus de 6000 têtes du côté russe, 5000 têtes du côté américain, environ 300 côté britannique, côté français. Encore une fois, il faut les affiner à la dizaine, mais c'est à peu près ça. Dedans, vous avez différents types d'armes. Les Russes ont beaucoup d'armes tactiques, c'est-à-dire, pour faire simple, des petites armes nucléaires. Ça reste absolument terrifiant. Mais pourquoi les Russes ont des petites armes nucléaires? Pas seulement des armes stratégiques, balistiques, qui ont une capacité de naviguer sur des dizaines de milliers de kilomètres avant d'aller frapper leur cible, en passant notamment par la stratosphère, c'est-à-dire par l'espace. Mais il y a beaucoup d'armements tactiques, de petits armements, parce que dans la doctrine russe, le fait d'employer l'arme nucléaire tactique sur un théâtre d'opération est possible, est jouable. Et ça, depuis l'Union soviétique. Même à l'époque de l'Union soviétique, dans la doctrine d'emploi du nucléaire, il y a ça. Donc vous avez beaucoup de têtes comptabilisées chez les Russes, mais on ne peut pas la présenter comme la première puissance nucléaire, ne serait-ce que parce que les forces de l'OTAN ont plus de têtes, plus de capacités que les Russes. Mais enfin, c'est une comptabilité terrible, parce que de toute façon, une seule tête, c'est 50 ou 100 fois Hiroshima, donc c'est absolument terrible.
Oui, donc on est dans une situation de neutralité de chacun des côtés, en fait, c'est ça?
Exactement, c'est ce qu'on appelle la dissuasion, chacun a ses armes, et normalement tout ça doit conduire au fait que personne ne cherche à l'employer. Le problème, encore une fois, c'est que Poutine rompt le consensus, rompt même avec la tradition soviétique. Les chefs d'État, les responsables soviétiques à leur époque alors pouvaient mettre des missiles nucléaires, essayer de mettre des essais nucléaires à Cuba pour menacer les États-Unis, mais on ne parlait pas de guerre nucléaire, on n'agitait pas cette menace. Là, Poutine est un personnage transgressif, et encore une fois, compte tenu du fait qu'il n'arrête pas de transgresser, c'est un point de préoccupation, même s'il y a ce que vous dites, à savoir, normalement, il y a un équilibre de la terreur qui doit empêcher l'emploi de cette arme terrifiante.
Alors, Pierre Servent, vous le dites, hein, il y a les menaces de Vladimir Poutine et puis il y a deux choses inédites en Europe. L'Union européenne qui annonce hier l'achat d'armes pour l'Ukraine, c'est une première dans l'histoire de l'Union, et l'Allemagne qui sort de sa neutralité militaire historique. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là ?
Eh bien, quelque chose de totalement paradoxal. Si ce que faisait Vladimir Poutine n'était pas horrible, je dirais merci Monsieur Poutine. C'est-à-dire qu'il a ressuscité l'OTAN et il est en train de stimuler l'Union européenne. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent bien compte de ce que représente le changement de position allemand. C'est un changement historique. Depuis 1945, les Allemands sont dans une position militaire de quasi-neutralité. En fait, ils sont à l'intérieur de l'OTAN, ils sont protégés par l'OTAN et ils n'ont jamais eu aucune volonté véritablement d'utiliser leur armée. Vous avez remarqué que ces derniers jours, le chef d'état-major de l'armée de terre allemand avait fait un constat d'impuissance en disant « Je suis incapable aujourd'hui de proposer à l'Allemagne la moindre, à mon pays, à mon gouvernement, la moindre option militaire face à ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en gros, j'ai pas grand-chose, il n'y a pas de volonté, etc. » Donc là, ce qui change, c'est cette volonté allemande d'abord de réarmer, 100 milliards d'euros sur la table pour véritablement réarmer l'Allemagne, et puis le fait que l'Allemagne fournisse des armements défensifs mais assez importants à l'Ukraine, c'est un changement. Et regardez l'évolution sur plusieurs semaines, les Allemands, avant l'invasion, ont commencé par l'envoi de casques, et donc les Ukrainiens se sont quand même un peu moqués d'eux. Après, les Allemands ont annoncé l'envoi de lance-grenades. Et là, aujourd'hui, on est sur l'envoi de matériel important.
Et vous voulez dire que la position allemande est plus importante, finalement, que ce qu'a annoncé l'Union européenne de son côté ?
Non, tout est important, mais sur le plan historique, ouais, psychologique, ce qu'annonce l'Allemagne, vous verrez que dans les livres d'histoire, dans 10 ans, ça sera marqué comme un tournant majeur. C'est-à-dire que l'ombre portée du Troisième Reich, hein, des crimes abominables du nazisme, qui pesait sur l'Allemagne et qui faisait que l'Allemagne était totalement inhibée face à la guerre, aux opérations militaires, ce verrou saute, et à cause de M. Poutine, ou grâce à M. Poutine, enfin en tout cas à cause de M. Poutine. Pour vous donner un détail, lors des défilés du 14 juillet, quand il y a des soldats allemands dans les rangs français, ils sont obligés de demander une autorisation spéciale pour porter une dague ou un sabre. C'est pour vous dire l'inhibition et le blocage qu'il y avait chez les Allemands. Là, compte tenu de la situation tragique, ce blocage saute.
Dernière question, Pierre Servent, très rapidement. Dans le même temps, il y a des pourparlers qui s'annoncent à la frontière biélorusse. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Est-ce qu'on en attend quelque chose, d'ailleurs ?
Écoutez, c'est déjà une toute petite éclaircie dans un ciel très très sombre. J'ai du mal à voir ce sur quoi ça peut déboucher, ne serait-ce que parce que Poutine, pour l'instant, n'a pas suffisamment de gains territoriaux, notamment du côté du Donbass, Mariupol, la partie du Donbass qui est tenue par l'armée ukrainienne, Kiev qui est également tenue. Poutine, s'il veut véritablement rentrer dans une négociation, ce qu'on peut souhaiter, a besoin de plus de succès et de gains territoriaux. Donc on va voir, mais pour l'instant, malheureusement, je doute qu'on puisse déboucher très rapidement sur un accord, un cessez-le-feu et une fin des hostilités.
Merci Pierre Servent, spécialiste des questions de défense, et je rappelle que vous êtes l'auteur de 50 nuances de guerre chez Robert Laffont. Merci, vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.